splash my pension in that wishing well and flunk it out in pennies. Childhood skipped to end, I'm trying to live my life like Nettie. So many blonde moves, so for Halloween I'm Benny. Brought my Ray Mac, my umbrella, a spare poncho and my wellies. Jellies detached from everything that gives me feeling. God went on a lunch break, now I'm tussling with the ceiling. The lead role in my box set and every season is grieving. So I guess it's just another night of me crying this evening. Hidden sprinklers in my pillowcase. My ego doesn't have an ounce of shame. Water faucet busting through my cheeks. I know that I'm a mess and I ain't trying to be discreet. Survival coping, live streaming my final moments. Knowing I can't swim my Uber in lifts to the widest ocean. Can't always know my issues at the party. For me to see the sun, I have to outlive this tsunami.
I've been waiting for too long.
HTL, c'est sur le 99.
I feel a vibration.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que
I feel it.
Tout de suite monsieur.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la radio HDR le 99.1. Aujourd'hui, émission un peu particulière, émission que j'avais envie de partager avec vous, le portrait HDR. Le portrait HDR consiste en quoi ? À recevoir un invité, qu'il soit connu ou pas connu, qui vient de la société civile, de la société politique ou autre. Son parcours nous intéressera et ce sera un temps d'échange pendant une heure de discussion franche et cordiale où on pourra aborder son parcours professionnel comme privé. Et comme première invitée pour ce portrait HDR, nous recevons la députée Alma Dufour de la Seine-Maritime, 4e circonscription.
Tout à fait. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invitée pour cette première. Je suis hyper touchée d'avoir été choisie.
Alors, dans l'avion, on se tutoie.
Oui.
Donc, je vais te poser la question directement. Est-ce que tu comptes tutoyer ou
On peut se tutoyer, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère tutoyer les gens.
Eh ben, c'est parti.
J'ai le tutoiement facile en plus, du coup. Voilà.
Bah, c'est très bien parce que ça fait le charme aussi de cette émission. Alors, tu es députée depuis 2022.
Tout à fait.
Tu as été une activiste écologique. Tu as un parcours, on va dire, éclectique par rapport à d'autres.
C'est clair.
Si on enlève tes fonctions, que ce soit dans le mouvement de la France Insoumise, ton statut de député, c'est qui Alma ?
Alma, c'est une idéaliste. Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, hein, c'est terrible. Non, je suis une idéaliste très en colère depuis longtemps, depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, en fait, pour moi, j'ai envie de me battre pour un monde meilleur. Ça paraît cliché, mais c'est la réalité. Et donc, et pour moi, la vie n'a pas trop de sens si on n'essaye pas de faire du bien autour de soi. Donc voilà, c'est moi. Une idéaliste, je dirais, qui apprend aussi, qui continue d'apprendre du monde depuis que je suis élue, justement.
Et depuis que tu es élu, on va essayer de faire étape par étape.
Ouais.
On va parler un peu de ta jeunesse, de ton enfance. Tu as grandi dans un quartier populaire.
Mmh. Dans le 20e arrondissement de Paris, ouais, dans une cité.
Donc c'est un peu ce côté pop que les gens ils entendent bien. Parce que ouais. Tu doutes bien qu'avant d'organiser cette interview, j'ai fait comme tout intervieweur, des petites recherches et tout ça. J'ai interrogé pas mal de personnes.
Ah ouais.
Que ce soit tes amis comme Maxime Da Silva ou des personnes qui sont opposées à toi sur le plan politique,
ouais,
qui te reconnaissent tous ta sincérité de langage.
Ah bah écoute, ça fait plaisir parce que bah effectivement, je pense que j'ai grandi là, enfin c'est sûr, j'ai grandi là-dedans et en même temps c'est un mélange un peu original parce qu'une partie de ma famille est plutôt bourgeoise et donc du coup, j'ai fait des études supérieures et ça peut s'entendre aussi par moments dans certains mots que j'utilise et donc le mix un peu langage un peu cru ou familier qui revient assez rapidement et en même temps un peu langage d'intello, je trouve ça fait un peu ma marque de fabrique aussi, c'est un mélange un peu détonnant, on va dire.
Mais le pire, c'est que ça se voit pas en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que si on ne fait pas des recherches sur toi en se disant, bon voilà, on regarde ton parcours académique, on ne le voit pas au premier abord,
ouais,
une fois que tu as fait des études supérieures.
Ouais, tout à
c'est-à-dire
fait.
Que même avec ce parcours-là,
bah, ça me fait plaisir.
Tu n'es pas une personne élitiste, au sens.
Et bah, ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que auquel je fais attention. C'est-à-dire, c'est pas du tout prendre les gens pour des gens bêtes, mais c'est-à-dire d'expliquer tes idées sans se cacher. Derrière des grands mots intellectuels, justement, je fais attention d'utiliser des mots qui sont dans le vocabulaire de tout le monde. Et pour moi, c'est pas en rabaisser. Au contraire, en fait, si t'es pas capable d'exprimer tes idées, tes concepts de façon claire et simple, En fait, c'est que toi-même, t'as pas vraiment compris, que tu maîtrises pas vraiment ce dont tu parles. Et je pense que c'est très important de faire cet effort-là. Et t'as beaucoup de gens qui veulent le bien des autres, mais qui sont dans une posture très universitaire. Et ils se rendent pas compte qu'ils arrivent pas à toucher les gens aussi, juste par le langage qu'ils emploient. C'est même pas par le fond de ce qu'ils disent. C'est déjà quand on parlait d'écologie, par exemple, je finirais. Enfin, en fait, les ONG, moi j'étais dans les ONG et tout, on parlait du changement climatique. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait comme des bouquins. Parce qu'on avait tellement peur que les journalistes en face nous disent « Ouais, vous êtes pas sérieux, vous êtes pas crédible », qu'on arrivait, on aurait dit qu'on avait fait une thèse, quoi. Et en fait, bah, pendant 10 ans, les ONG, elles ont tenu ce genre de discours. Et en fait, on a laissé tout un pan de la population française sur le côté parce qu'on n'a jamais utilisé des mots qui pouvaient juste parler aux gens, tout simplement.
Bah, d'où l'expression de la gauche bobo, qui ouais. est un peu déconnectée, la gauche dite caviar aussi.
Mais c'est ça. C'est encore autre chose, ça. Ouais, ça, c'est la... mais la gauche corrompue. mais il y a une gauche gogo. Il y a une gauche bobo, c'est vrai. C'est pas exactement la même que la gauche caviar, qui, elle, en gros, c'est une gauche affairiste qui fait semblant d'être de gauche, mais qui est quand même un peu de droite financièrement, etc. La gauche bobo, c'est exactement ça. C'est pas forcément des gens très riches, mais c'est des gens qui ont fait des grandes études, qui vivent, en gros, je me les représente comme des gens qui vivent dans des centres-villes, qui ont accès à beaucoup de choses. Ça peut être des gens précaires comme les Parisiens, par exemple, contrairement à ce qu'on imagine. La moyenne des Parisiens vraiment roule pas sur l'or, mais par contre, ils ont un capital culturel et d'éducation, de culture, qui a rien à voir avec celui d'autres endroits en France. Et ça, vraiment, ça se sent, voilà, dans ce qu'on dit la gauche bobo, c'est ça, c'est une gauche qui a pas les mêmes références culturelles et les mêmes mots. Et qui ne sait pas s'adresser aux autres, enfin qui s'adresse qu'à elle-même, quoi.
Ouais, une gauche qui regarde souvent les personnes dites au RSA avec un peu de mépris de classe en disant bon, on doit les aider parce que c'est l'universalisme et c'est l'humanisme, mais voilà quoi, c'est pas le public qu'on vise nous. Au contraire, on préfère rester un peu dans notre classe de. Bah, on est les bien-pensants, on sait comment conduire le monde,
on sait ce qu'on
doit vous apporter. Et celui qui n'a pas de diplôme ou qui n'a qu'un CAP cuisine ne sait pas.
Exactement, et c'est au-delà même du mépris pour le RSA, parce qu'il y a plein d'enfants de la gauche bobo qui ont le RSA, qui passent par le RSA parce qu'ils se cherchent beaucoup, ils ont le luxe de se chercher, c'est-à-dire ils ont le luxe de faire des études dans ça, puis d'abandonner, puis d'en reprendre. Ça, c'est un luxe, hein, clairement. Donc les gens qui ont le luxe, entre guillemets, de se chercher, ils vont à un moment donné passer par la case RSA, parce que c'est pas facile, parce qu'encore une fois, c'est pas la gauche, mais faut que j'arrête, c'est pas la gauche riche. C'est pas ceux qui roulent sur l'or, quoi. C'est pas la gauche Ségolène Royal. C'est la gauche éduquée qui gagne 2 500 € par mois. Donc elle va pas pouvoir forcément payer un appart à son enfant. Mais son enfant, quand même, il pourra faire des études. Enfin voilà, vous voyez, c'est un peu cet entre-deux. Mais effectivement, c'est un mépris des classes populaires. C'est un mépris de classe. C'est-à-dire, ils considèrent que justement ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures, en fait, ils sont pas en capacité d'analyser le monde et de savoir ce qui est bon pour eux, quoi. Clairement, ça, c'est un vrai mépris de classe. Et la gauche bobo, effectivement, elle a peur des pauvres, elle a peur des prolétaires, elle a peur des gilets jaunes. Et ça se sent très régulièrement, quoi.
Peux-tu nous parler de ton arrivée dans l'école de la Légion d'honneur?
oui.
Parce que c'est une école pas très connue en France.
Non.
Très
élitiste, là, pour le coup.
Je vais l'avouer, moi, je l'ai découvert à travers ton parcours, parce que je ne la connaissais pas du tout. On entend souvent parler de l'école alsacienne.
C'est vrai.
Voilà, parce qu'il y a un certain pré-candidat qui en vient.
Tout à fait.
Mais l'école de la Légion d'honneur, ça consiste en quoi? C'est une école déjà réservée aux filles.
Ouais.
Ce qui, moi, je trouve ça bizarre en République, mais bon, ça,
ouais,
c'est
ouais,
un
ouais,
détail.
Ouais, non, je peux. Je... En fait, en gros, c'est une école très particulière. C'est en gros réservé aux filles de personnes qui ont eu la Légion d'honneur. Donc globalement, aux filles et petites filles de personnes qui ont eu la Légion d'honneur, globalement des militaires ou des résistants. Moi, c'était le cas de mon grand-père, en fait, qui a eu une Légion d'honneur pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, enfin, juste après. Donc c'est public, mais c'est sur des critères de sélection. C'est pas cher comme école, mais c'est une école hyper élitiste, donc avec ce critère d'entrée qui est quand même, voilà, c'est particulier, et dans lequel, effectivement, c'est connu pour avoir un très bon niveau, etc. Et donc, ça en fait un lycée très élitiste, tout en étant public, tout en étant, en plus, du coup, très proche des milieux catholiques assez pas dire intégriste, j'aime pas ce mot, mais bon, oui, enfin, assez radicaux, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de militaires et de filles de militaires, et c'est vraiment un milieu. Donc, moi, j'ai découvert ces choses dont on parle pas, vous savez, on parle toujours de l'entrisme musulman, mais c'est connu, mais on parle pas des milieux catholiques très radicaux qui occupent certaines écoles, comme les ponts, les mines, les écoles militaires, Saint-Cyr, tout ça, et qui sont des gens qui sont aussi dans des formes de communauté. Et voilà, et donc j'ai vu ça, et donc je suis rentrée, moi je suis arrivée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Bah, vraiment, j'arrive, donc je coche les cases, mais alors moi j'ai pas du tout le même parcours. Voilà, je viens d'un milieu, enfin je viens du 20e arrondissement, d'un milieu populaire, très divers. J'ai fait un collège public, j'arrive après un truc sous contrat, mais bon, j'arrive comme ça, je suis la seule de gauche, quoi, globalement. La seule qui dit qu'être raciste, c'est peut-être pas ouf. Enfin voilà, on en était là quand même, hein. Il y avait quand même des gens dans ma classe, des filles dans ma classe, qui discutaient de quelle communauté elles aimaient pas. Enfin voilà, et c'était normal d'avoir ce genre de discussion.
C'est intéressant, parce que Alma qui arrive dans cet univers-là, ça doit être quelque chose. Au sens où
c'était un peu bizarre, ouais.
Quand on voit la personne que tu es actuellement, on se dit... Mais à mon avis, ça a dû être détonnant.
C'était détonnant, mais après, j'ai vite compris que pour passer 3 ans... Parce que c'est un internat, en plus, c'est ça qu'il faut préciser. Donc, c'était quand même coincé là-bas. Donc, en fait, je me suis vite tue sur les sujets politiques, la réalité, pour passer un peu... pour avoir des amis, en fait. Très concrètement. Donc, j'ai un peu ravalé mes convictions. Enfin, ce qui était des débuts de convictions, parce que j'étais jeune, quand même. Et du coup, qui sont revenus progressivement quand je suis arrivée à la fac, voilà, en gros. Mais ouais, c'était pas facile. Avec le recul, vraiment, j'y serais pas allée. Mais c'était pas vraiment mon choix. Donc...
Et as-tu gardé des proches, des amis qui...
Pas
qui, au jour d'aujourd'hui, te parlent toujours, enfin,
ouais.
Vous avez quand même...
Ouais, j'ai une amie que j'ai gardée tout du long, qui s'appelle Raphaël. Et je la salue ici, si elle entend. On va se voir après-demain. Je fête mon anniversaire. Et donc Raphaël, qui elle, en plus, a pas eu de chance. Elle, c'était un peu une fille comme moi, quoi. Vient d'un milieu... beaucoup plus prolétaire que la moyenne des filles de la Légion. Elle a eu un parcours de vie compliqué. Et elle est arrivée à 11 ans, la pauvre, au collège direct. Et elle a fait collège terminal en internat, en uniforme, qu'avec des filles. Et voilà, et maintenant, elle travaille pour le droit au logement des personnes qui galèrent. Et c'est une meuf incroyable. Voilà.
Quoique même dans une école d'ITDITIS, on peut trouver toujours des belles personnes.
Exactement. Non, et puis même des personnalités, ce qui étaient aussi des belles personnes. Il y a des gens qui, malgré leur milieu, ont aussi... Mais le milieu est fort. Le milieu est très déterministe aussi. Et c'est vrai que c'est compliqué d'y échapper. J'avais ma voisine de classe, je finirai là-dessus. Je l'adorais, cette fille. Si elle m'entend, je pense pas à qu'elle écoute la radio HDR, mais Adélaïde Puchel était une meuf incroyablement intelligente et drôle, mais elle venait d'une famille Rassemblement National, genre hardcore. Papa, votre Jean-Marie.
Ah, le front de l'époque.
Le front de l'époque, en plus, c'est Jean-Marie, quoi. À l'époque encore, il est pas mort et tout, et Marine Le Pen n'a pas pris la suite. Et en fait, c'est marrant parce que je me souviens de la personne, l'ami. Et en fait, ses idées politiques étaient déjà bien là, et elle a fini porte-parole de la Manif pour tous, enfin, je sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais globalement, malgré sa générosité, sa gentillesse et toutes ses qualités, tu échappes pas facilement à ton déterminisme familial, quoi, voilà, visiblement.
On va continuer un peu dans l'enfance et dans ton parcours de jeunesse.
Adélaïde, reviens, si tu m'entends, je rigole.
Grandir dans le 20e, c'est comment? Parce que si on écoute les chaînes d'infos d'aujourd'hui, c'est le 20e, le 18e, ce sont des quartiers... limite des zones de guerre.
Le gang de la banane. Non, je rigole.
C'est pas... Pour moi, je connais un peu Barbès et j'ai pas l'impression de me retrouver...
Grandir, c'est génial. Bah, non, mais je vais le dire. En fait, en gros, Belleville, c'est un quartier... c'est le quartier de Paris et de France, du coup, de fait, où il y a le plus de nationalités différentes et de langues parlées. Il me semble qu'il y avait plus de 100 langues différentes qui étaient parlées, qui sont parlées à Belleville. Donc vraiment, c'est une... Enfin, moi, vraiment, c'est une chance. Je veux te dire la vérité, je crois que j'étais la seule blanche dans ma classe en CE2, en CM1. Mais je crois qu'on était deux, tu vois. Donc vraiment, tu vis l'expérience s'inverser, mais comme en fait il y a plein de gens différents, tu te sens hyper bien, quoi. Enfin, moi, ça n'a jamais été un problème. Mon problème, c'est que j'étais un peu trop. J'étais une grosse intello, j'avais sauté une classe. Ça, c'était mon problème d'intégration. Il était plutôt lié au fait que j'étais un peu différente des autres. Mais c'était pas du tout une question de culture. Et honnêtement, moi, j'ai trop aimé le quartier de Belleville, les squares, les gamins, les restos, enfin tout en fait. Et j'ai grandi là, pour moi c'est ça ma France en fait. Après je sais que ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais ça c'est ma France. Et elle existe aussi, quoi. Et du coup, moi j'ai trop aimé. C'était une super enfance. à Belleville, en vrai. Non, c'est vrai.
Le mix de toute la culture, c'est sur le 99.1.
Belleville, donc après t'as fait des études supérieures.
Ouais.
Là, t'as commencé un peu à t'engager sur le plan écologique, militantisme.
Ouais.
Et après, on va sauter des étapes, on peut y revenir après, c'est pas grave. Comme dirait l'autre, on a une heure pour discuter, donc on peut la prendre comme on veut, cette interview. Enfin, cet échange plutôt. Pourquoi avoir choisi justement le côté, la circonscription Elbeuf contre le Grand Quevilly?
Alors, bah parce...
quand nous, en tant que Rouennais, tout ça, on connaît ces endroits, on se dit... Bon, c'est pas... Voilà, limite, t'aurais pu choisir la première circonscription de Rouen.
Oui, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai milité dans la circonscription, la quatrième, parce que dans le cadre de mon travail, en fait, quand j'étais dans une ONG qui s'appelle Les Amis de la Terre, je me suis ramenée la première fois, donc avant même de connaître Rouen, j'ai connu Petit Couronne et sa zone industrielle désertée, parce qu'en fait, je travaillais sur la question du e-commerce, des entrepôts Amazon, et il y en avait un qui devait s'installer à la place de la raffinerie de Petroplus qui avait fermé en 2013, etc. Et donc j'étais allée là-bas, et en fait, on s'est mobilisé contre ce projet, mais tout en ayant bien conscience que c'était quand même assez compliqué à Petit Couronne et dans la zone, vu les taux de chômage qui sont quand même très importants. Petit Couronne, je crois, là, aujourd'hui, ça doit être 18-19%, mais Elbeuf, c'est 30, Cantleux, c'est 20 et plus. Enfin, je veux dire, en gros, globalement, c'est quand même une circo marquée par la pauvreté, la précarité et le chômage qui résulte du fait que les usines, quand elles ne ferment pas, en tout cas, elles ont vachement coupé dans les effectifs. Je prends l'exemple de Renault à Cléon. Renault à Cléon, à la belle époque, ça employait 10 000 personnes. Aujourd'hui, on emploie. Je dis, c'est mon usine. J'ai un petit peu un problème
avec. Tu as terminé à chaque fois sur le sujet.
J'ai un peu un problème. Hier, j'étais avec des lobbyistes de l'automobile, mais ça, c'est hyper drôle. À un moment, je dis, oui, et donc du coup, en plus, eux, ils représentent littéralement des boîtes qui fabriquent des voitures, quoi. Et je leur dis, oui, mon usine. Ils me regardent, vous comprenez, c'est pas mon usine, mais c'est quand même mon usine. C'était hyper drôle. Moi, j'ai un attachement viscéral à l'usine Renault Clio. Mais du coup, voilà. Et maintenant, l'usine emploie 2500 personnes, donc on voit que ça a vraiment été divisé par 3 et 4 même, et c'est partout pareil, c'est le même constat dans toutes les usines de la zone, ce qui crée forcément du chômage dans des bassins en fait où les gens sont venus pour bosser dans les usines, se sont installés, il y avait les logements sociaux, on fait des enfants, etc. Sauf que maintenant, y a beaucoup de gens et il y a moins de travail, et donc on en arrive à des territoires très difficiles. Bref, tout ça pour dire que ça m'avait vachement intéressé, parce que je me suis dit il y a des endroits où c'était des entrepôts Amazon au milieu des champs, des petites fleurs et tout. Là, tu voyais bien qu'il n'y avait pas de besoin particulier. C'était juste le maire qui voulait plus de recettes fiscales. Enfin, tu voyais que c'était vraiment des trucs de magouille, de vendre ses terres, des trucs. Là, tu voyais bien qu'il y a un besoin d'emploi. Et donc, la question se posait, mais qu'est-ce que tu construis à la place? Qu'est-ce que tu proposes à la place? Que ça. Quel est le modèle de développement pour des zones industrielles? Et donc, j'ai commencé à beaucoup bosser sur l'industrie, sur le textile. Elbeuf est un ancien bassin textile. Et après, il s'est avéré qu'il y avait une usine juste à côté d'ailleurs de la raffinerie Petroplus, ça s'appelle la Chapelle d'Arblay, qui est toujours pas réouverte, qui est la plus grosse usine de recyclage papier d'Europe même. Et on est intervenu à l'inverse pour la sauver, avec mon ONG, avec la CGT, etc. Donc du coup, en fait, j'ai commencé à vraiment venir souvent sur des questions d'emploi et d'industrie. Et quand j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon en 2022, ils m'ont dit « tu voudrais aller où ?» J'ai dit « je vais aller là ». Et voilà. Effectivement, c'est pas tous les jours facile, je vais pas vous mentir. Elbeuf, c'est la ville la plus pauvre de Normandie et ça se ressent. Je veux dire, ça se ressent dans les problématiques des gens. J'ai une amie que je nommerai pas, elle a littéralement une pneumonie, s'il vous plaît, quoi, parce qu'elle vit dans un logement insalubre, comme plein de gens à Elbeuf.
On voit les logements, que ce soit les logements sociaux, les logements privés.
C'est chaud. C'est très, très chaud. Mieux, mais c'est guère beaucoup plus reluisant non plus. Donc, on est vraiment sur des endroits où c'est dur. Je ne vais pas vous mentir. Des fois, je ressors de la journée avec des histoires. Je suis comment on va faire? Comment on va faire?
Et justement, comme tu dis, quand tu parles avec nos concitoyens, quand tu discutes avec des gens qui viennent de différents horizons, comment tu arrives à dire... Je vais encore me réveiller demain matin pour aller plus loin. Ouais. D'où te vient cette énergie?
T'as
envie de... Ouais, je...
Allez, tu viens de penser à la ref.
Tout le tout est dans pour...
Tu toute cette énergie.
Désolé, c'était pas voulu, mais... malheureusement, j'aime trop la politique pour... des fois, ne pas me sortir de...
Je comprends. La colère. Non, mais quand je vous ai dit que j'étais une... En fait, en gros, je suis plutôt une enfant idéaliste et je suis restée ça au fond de moi. C'est même pas pour me rendre sympathique, mais c'est vrai en fait. Mon énergie principale vient d'une colère que je ressens depuis très petite face à l'injustice et qui certes des fois s'use un petit peu, hein, je vais pas dire que des fois je suis pas fatiguée, mais en fait il y a un truc qui revient, enfin, et genre je suis voilà, j'ai cette énergie là, ça me vient de là, une guerrière quoi, enfin je veux dire ça reste, et même quand je tombe, je peux être abattue à plein de moments, mais je me relève quand il y a besoin, quand je vois des gens qui galèrent, et ça peut paraître, mais c'est vrai en fait, j'ai pas le luxe d'abandonner les gens, parce qu'aussi j'ai conscience que moi, ma vie, enfin, elle a été difficile, mais ça va, enfin, je veux dire, à plein d'endroits, ça va. Et donc moi, j'ai la force de me battre pour les autres, donc je le fais, quoi, et en espérant que des gens se battront pour moi, si jamais un jour, voilà. Je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'est fatigant, non, mais moi, ça fait 15 ans que je milite, hein, et des fois, ouais, des fois, tu dis, bon... Tu sais, c'est comme gravir une montagne et tu penses que t'es arrivé au sommet et puis en fait, t'as encore le sommet qui est derrière et tu le vois pas. Et c'est ça la lutte, l'engagement. C'est long. Ça paye, ouais. Mais c'est très long. Il faut vraiment que les gens aient conscience de ça. C'est très, très long. Faut pas se décourager parce que vraiment, ça prend beaucoup de temps de changer, d'avoir un impact sur le réel, quoi. Mais bon, on y arrive.
C'est-à-dire, moi, je veux avancer pour les autres, je veux faire pour les autres, mais je pense aussi à moi, parce que c'est ça aussi, c'est psychologiquement, en fait, tu dois avoir des soupapes pour dire évacuer. Parce que
j'en ai plein des soupapes. J'en ai plein des soupapes après.
Tous les sports trash qu'on peut entendre, surtout moi, par exemple, j'ai un monde du social. Ouais. À l'époque où.
Tu faisais quoi dans le social, du coup?
Je travaillais à la protection de l'enfance.
Ah bah super, donc, voilà. ça c'est gratiné,
C'est le truc vraiment.
C'est horrible.
Très hardcore. Très prenant, violence conjugale, etc., etc. Bon, on ne sait pas toujours pourquoi on est dans les détails, mais il faut justement avoir cette perception de...
Ouais, qu'est-ce que tu fais pour toi ? C'est dur, s'aérer, ben, en fait, j'ai la chance déjà d'avoir beaucoup d'amis merveilleux. C'est marrant, hein, on ne dit pas souvent ça, mais on ne parle pas souvent de ses amitiés, ou en tout cas... Mais j'ai beaucoup de chance, je suis très bien entourée de gens que j'adore. Et donc, ma soupape, c'est mes proches, c'est de temps en temps faire des petits week-ends avec mes potes, c'est prendre des moments pour moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, j'aime bien faire la fête. Je la fais beaucoup moins, évidemment, qu'avant, parce que j'ai plus le temps. Je travaille quand même 3 week-ends sur 4, donc voilà. Mais c'est ça, ma soupape, voir les gens que j'aime, et c'est ça, c'est bateau, hein, mais c'est vrai. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est le cas.
Ah, mais des fois, la simplicité, la sincérité, mais c'est ce qui fonctionne le mieux.
Je vais pas dire j'adore faire du karaté, tout ça. Enfin, je fais du MMA, c'est un peu une soupape, mais j'en fais plus, là. Mais c'est pas ma passion. Je veux dire, si j'ai besoin de me détendre, en fait, je vais aller voir mes potes, me mettre en terrasse, je vais pas mentir.
Prendre un verre et
prendre
discuter.
Prendre un petit verre et discuter, souffler, et c'est ça la vie, quoi. Voilà, hein, moi je suis assez simple.
Ouais, des choses que la plupart des gens font.
Bah ouais, des choses que la plupart... Ou même, j'ai honte, hein, parce que Netflix, c'est... Voilà, mais me mater une petite série Netflix au lit, je vais pas dire non, quoi. Voilà, ça peut être ma soupape, quoi. Je suis vraiment très fatiguée. C'est ça, ma soupape, quoi. Voilà, comme tout le monde, en fait.
Il y en a qui pensent que le mandat de député, c'est un mandat, on va dire... tranquille, tu gagnes 5000 boules à peu près par mois.
C'est vrai, ça c'est vrai qu'on est bien payé, on va pas mentir. Mais c'est pas tranquille.
Non, mais enfin voilà, c'est mais celui qui s'engage vraiment dans le rôle de la députation, je parle pas de certains députés qui sont là, ils font juste le côté de on fait la campagne, on est élu et puis je me planque pendant 5 ans.
Ils nous donnent une très mauvaise image, ces gens-là, parce qu'il y en a. Hein. Et après, du coup, comment vous voulez avoir une bonne image si. En fait. T'as raison, mais en fait, si tu veux bien faire ton travail, ta mission, ton rôle de député,